Bonjour, mesdames, messieurs. La version écrite la plus ancienne d'Antes Avestique étant de quelques fragments des contenus zoroastriens repérés en Asie centrale. En effet, un fragment de la grotte des mille Bouddhas à Don Juan inclut un bref texte avestique qui est identifié par Gershevitch comme la Shenbohu. Il s'agit de la Shenbohu avestique comme il était récité dans le Turkestan chinois autour du Xe siècle. Comme on peut le voir, c'est le point 1 du handout. La prière est la même, mais la récitation présente beaucoup de différences avec la version de nos manuscrits. La version orientale montre de claires influences de la prononciation sordienne, comme la palatalisation du verbe copulatif ishti et ushti pour asti, ou la forme ehustai pour vahustai. De plus, la version sogdienne ne montre pas l'évolution du groupe post-tonique RT en che, qui est si caractéristique de l'avestique dans sa transmission occidentale. Le témoignage de la Shenbohu sogdienne nous enseigne que la récitation des textes rituels avestiques n'était pas du tout la même dans toutes les régions dans lesquelles les textes avestiques étaient employés rituellement. Tous les manuscrits reproduisent pourtant la même variante, ou plutôt des variantes très similaires. Il semble donc qu'une variante locale de la récitation est devenue universelle à l'époque sassanide, plus vraisemblablement, ou après. Une fois devenue canonique, cette récitation a pourtant continué à subir des changements dans les différentes régions, exactement comme le latin ecclésiastique a évolué de manière différente dans chaque territoire. Dans son livre « Persia Past and Present », Jackson transcrit la Huna Vairio comme il l'a écouté à Yaz en 1903 de différents prêtres. C'est le point 2 du handout. On perçoit, d'une part, que le nombre de différences avec la version des manuscrits est notable, et d'autre part, qu'il a écouté des variantes significatives entre les différents informateurs. Ainsi, Eush est prononcé de trois façons, Eush, Iosh, Iash. La finale M est prononcée soit M, soit Am. Quelques particularités s'expliquent par l'influence dans la récitation des caractéristiques du Dari de Yaz Ekerman. Ainsi, en Dari, Oulong devient souvent Ilong. Ainsi, on a Dir pour le persan Dur, Parli pour le persan Parlu, etc. Pour ces raisons, tous les récitants de Jackson disent Ahi pour Ahu. De plus, la langue devient Oulong dans quelques positions, spécialement avant nasal. D'où la récitation Seyutananume pour Xiaothananam et la confusion entre Ahurai et Aharai, etc. Si on compare quelques récitations actuelles en Inde, le panorama n'est pas très différent. Permettez-moi de vous faire écouter trois récitations indiennes actuelles différentes dont vous trouverez la transcription dans les handouts dans les points 3. C'est la première.
Yata ahuvayo atharadush ashachi hacha vange ush dasamanango shaktananam ange ush masai shatrin chai ovrai ayin dregubyo dadad vastarem.
Ta ahuve yo aratus ashachilacha vangeus dasdalmanando shokinana vangeus matai satincha ora ahim dregubyo dadad vastarem.
Des différences notables apparaissent entre les trois, notamment au niveau de la prononciation de quelques groupes. Il s'agit à nouveau de la diphtongue Eush, de la finale M qui apparaît comme M ou comme In, de la A long qui se prononce parfois comme Ao, du groupe Tri qui est récité comme Dri ou comme Dre, de Ajim qui est souvent prononcé Ahim, etc. En outre, on trouve des brèves variations textuelles comme la forme exathrem chai pour exathrem cha, qu'on l'entend sur deux des trois récitations. On perçoit aussi que les variations que l'on constate en Iran et en Inde sont d'habitude différentes. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle ici de ces témoins modernes de la récitation et quelle importance ils peuvent avoir pour une édition de la liturgie longue. La raison est pourtant bien claire. Les variantes de ces versions récitées ne sont pas très différentes de celles que l'on trouve dans les manuscrits, et spécialement dans les manuscrits liturgiques. Les textes offerts par les manuscrits B5, c'est le point 4 du handout, copié à la fin du XVIIIe siècle d'un original du début du même siècle, montrent un texte qui, bien qu'un peu plus conservateur que les versions récitées modernes, est à tout égard comparable. Il est très intéressant de constater qu'il partage avec les récitations modernes en E2 la variante exathrem chai pour exathrem cha, motivée vraisemblablement par l'influence des Ahurai. Cette variante a eu un grand succès en Inde à partir du XVIIIe siècle et apparaît ainsi dans quelques manuscrits. En outre, la plupart des variations phonétiques que montrent ces récitations modernes en Inde et en Iran trouvent des correspondances dans les variantes des manuscrits. C'est les points 5 et 6 du handout. Ainsi, les changements de oulong en ilong que l'on voit dans Sahi pour Ahu est une caractéristique des manuscrits iraniens depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle. La confusion entre Ahlong et Ou apparaît dans la récitation iranienne avec Aharai pour Ahurai, Daregabeyu pour Drigubio, et elle peut aussi être responsable de la prononciation Yash pour Eush. La même confusion est fréquente dans les manuscrits iraniens, bien qu'il s'agisse seulement des manuscrits les plus modernes. La monoptongaison que l'on perçoit dans Seyu Tananoumé est plus fréquente dans les manuscrits iraniens que dans les indiens. Elle n'apparaît pourtant que dans les manuscrits modernes. D'autres changements, comme à la version de Jackson et au manuscrit, apparaissent déjà dans les manuscrits iraniens les plus anciens, comme la confusion entre la A longue et la A bilabiale ou entre U et O. Les rapports entre les récitations indiennes modernes et les manuscrits indiens n'est pas moins clair. On va maintenant considérer seulement l'anaptique de Siavanaanam, c'est le point 7a du handout. Les trois récitants disent ten avec une voyelle e d'anaptique entre le th et le n, alors que les récitants iraniens disent tan. La distribution de l'anaptique dans les manuscrits est complexe. La description la plus proche de la réalité fut mise en lumière par Kellens en 1999. L'anaptique A est propre du biais lavestique, alors que l'avestique récent ne montre que l'anaptique qu'au génitif. Celle en E est limitée au génitif. On peut préciser encore un peu. L'anaptique E est limitée au génitif pluriel seulement en avestique récent. En biais lavestique, la forme régulière dans les manuscrits liturgiques iraniens est Siavanaanam. Par contre, dans les manuscrits liturgiques indiens, on trouve toujours Siavanaanam. Les récitations modernes montrent la même distribution que les manuscrits anciens. Cela indique d'une part le conservatisme des récitations modernes et d'autre part la connexion évidente entre les variantes des manuscrits et la récitation réelle. On arrive ainsi à un des problèmes les plus énervants qui doit affronter celui qui s'approche d'un texte avestique en langue originelle, l'infinité des variantes minimales de chaque mot. Bien que les textes que présentent les manuscrits sont toujours très similaires, il y a une variation extrême dans la façon d'écrire chaque mot dans chaque manuscrit. Les mêmes mots sont écrits de différentes manières dans les différents manuscrits, un exemple dans le point 8.1 du handout. De plus, on trouve très souvent les mêmes mots écrits de manière différente dans différents passages du même manuscrit, c'est le point 8.2. Et même quand un passage apparaît deux ou plusieurs fois dans les mêmes manuscrits, on constate aussi des divergences entre les deux passages. Les cases du manuscrit liturgique iranien 4140, copié dans la deuxième moitié du XIXe siècle, est très représentatif de l'ampleur du problème, c'est le point 8.3 du handout. Les copistes ont copié par erreur des fois les mêmes textes et il y a plusieurs divergences entre les deux versions. J'ai analysé et classifié les variantes que l'on trouve dans presque 100 manuscrits de la liturgie longue pour les paragraphes 1 à 5 d'Yasna 9. La première conclusion est que le nombre de variantes qui peuvent être considérées comme des vraies alternatives textuelles est très très limité. Le nombre d'erreurs avec des causes graphiques est aussi très réduit, c'est le point 9 du handout, sauf pour la confusion entre A et double I. La plupart des variantes sont soit orthographiques, différentes conventions pour quelques groupes comme les diphtongues, soit, dans la grande majorité des cas, phonétiques. Ceci vient confirmer les trois connexions entre les variantes dans les manuscrits et la récitation. La récitation a sans doute fortement influencé les manuscrits et les instabilités de la récitation, comme celles que nous venons de voir dans les récitations modernes, sont responsables d'un bon nombre de variantes. On perçoit en plus que bien que la plupart des variantes se trouvent dans les deux branches de la transmission, quelques-unes n'apparaissent que dans une d'elles, ce qui confirme les divergences entre les deux traditions, l'indienne et l'iranienne. Malgré l'évidence, on n'a pas toujours envisagé les caractères éminemment phonétiques de la plupart des variantes. Le premier à le faire fut Spiegel. Dans son analyse des variantes essécoses, il distingue deux types de variantes. Les premières affectent les manuscrits les plus anciens et sont les résultats de la transcription des manuscrits plus anciens encore écrits dans un alphabet de type sémitique. C'est la théorie qu'on attribue d'habitude à son élève Andreas. Le deuxième sont des types phonétiques et affectent surtout les manuscrits plus modernes. Les manuscrits auraient été copiés par dictée. Un prêtre lisait et plusieurs scribes copiaient les textes en même temps en employant l'écriture avestique, mais selon les conventions orthographiques de leur propre écriture, ça veut dire les persans ou les gujaratis. Pour expliquer les fautes qui montrent une influence évidente de l'oralité, Gelna a introduit un concept absent chez Vestergaard, la Vulgate. C'est la récitation traditionnelle, les textes que les prêtres connaissaient par cœur. Il attribue à la Vulgate les variantes qui ne sont pas circonscrites à une classe de manuscrits, mais un parcours plusieurs transversalement. Toutes ces variantes se seraient infiltrées dans les manuscrits de la même manière. Quelques copistes montrent une tendance à lire toute une phrase qui est copiée entière et non mot à mot. Ainsi, la récitation traditionnelle s'infiltre dans les manuscrits plus facilement que chez les copistes qui copient mot à mot. Hoffmann, à son tour, distingue deux phases différentes d'influence de l'oral après la mise par écrit, sassanide. La prononciation post-sassanide avant les hipparchétypes aurait influencé profondément les manuscrits et une deuxième après les hipparchétypes. Hoffmann réserve pour celle-ci la désignation Vulgate qui doit être comprise comme la récitation traditionnelle en Iran et en Inde depuis l'an 1000 jusqu'au 19e siècle. Elle a influencé les manuscrits que nous avons, son influence n'est cependant qu'occasionnelle. Malheureusement, les variantes n'ont jamais été l'objet d'une analyse systématique. On ne les a pas classifiées selon leur cause et surtout selon des critères diatopiques et chronologiques. Une analyse de la distribution géographique et temporelle des variantes nous donnera sans doute des informations précises sur les particularités de la récitation des récitatifs avestiques en Inde et en Iran pendant les 700 dernières années. Cette information serait d'un grand intérêt pour des raisons diverses et pourrait nous aider dans les choix éditoriaux. Les caractères sélectifs des variantes de Gelna a contribué à ces manques. Mais j'espère qu'avec l'accessibilité aux manuscrits aujourd'hui assurée par l'Avestan Digital Archive, cette lacune de la philologie avestique sera bientôt corrigée. Étant donné que la plupart des variantes sont d'origine phonétique et orthographique, et donc dépendant des traditions de récitation, il va de soi que les méthodes traditionnelles et surtout l'armanienne de la critique textuelle pour la sélection des variantes ne sont pas applicables à la philologie avestique. Ni les thèmes ne sont facilement envisageables, ni la position dans les thèmes à l'importance qu'on l'a attribuée. Beaucoup plus important est l'analyse des conventions graphiques et des types de variantes phonétiques qui montrent chaque groupe de manuscrits localisés dans le temps et l'espace. On pourrait ainsi mieux connaître les récitations propres de chaque place et temps, élément essentiel pour les choix éditoriaux. Pourtant, le choix éditorial a été basé sur des méthodes de la critique textuelle appropriées seulement pour une transmission fondamentalement écrite et pas autant influencée par la transmission orale. Aucune des méthodologies employées pour le choix éditorial n'a pris suffisamment conscience de la prénature des variantes. Vestager n'a pas considéré du tout les caractères phonétiques d'un bon nombre de variantes. Gellner s'est limité à introduire les concepts de Vulgate, qui se montrent comme une sorte de voile qui assombrit les vrais textes transmis des manuscrits. L'éditeur devrait dévoiler les textes de chaque manuscrit en éliminant les influences détectables de la Vulgate. Pour le reste, il recourt à la méthode traditionnelle pour les choix éditoriaux déjà employée pour Vestager. Occam ne s'incline par un choix mécanique en fonction de la position de lecture dans le stemma, mais il donne bien la préférence aux manuscrits exégétiques et surtout à ceux de Mihrabal. Cependant, Vestager n'était pas esclave de Mihrabal. Parfois, il choisit des lectures d'autres manuscrits en fonction des critères internes, comparaison des différentes attestations, la grammaire et le dictionnaire avestique. Cette indépendance de Mihrabal devint encore plus grande dans le cas de Gellner. Il eut la chance de connaître la tradition appelée Yasna Pehlevi iranien, qui lui montra les erreurs fréquentes de Mihrabal. Quant aux conventions orthographiques, elles n'ont pas non plus été vraiment analysées. Gellner se montre convaincu qu'il n'y a pas une orthographe réglée pour l'avestique à cause de l'absence d'une grammaire autochtone. Dans son édition, malgré l'essai d'introduire de la cohérence quand il s'était possible sans faire violence au texte transmis, il a conservé la polychromie du texte transmis qu'il considère original. Dans les prolégomena, il se plaint d'avoir relégué dans l'apparat critique quelques lectures qu'il aurait dû inclure dans le texte. C'est-à-dire qu'à la fin du travail, il sentit qu'il était allé trop loin dans l'uniformation. Dans cette discussion avec Bartholomé sur l'emploi de quelques lettres, il recourt à l'argument de la liberté du copiste. Cependant, Gellner a suivi exactement les mêmes directives orthographiques que Vestager dans la pratique éditoriale. On peut comparer dans l'agenda point 10, c'est trop petit, je m'excuse, hein, les versions de Vestager et Gellner d'antes choisies aléatoirement. Il n'y a presque aucune différence orthographique. Gellner est dans l'orthographe plus esclave de Vestager que de Mihrabal. Pourtant, l'éditeur danois n'a pas analysé les différentes conventions orthographiques, mais s'est incliné automatiquement pour celle de Mihrabal, la plus ancienne qui est disponible pour la plupart des textes de la liturgie longue. Par contre, Hoffmann part d'un postulat opposé à celui de Gellner. Face à la liberté du copiste original et à l'absence de normes orthographiques, Hoffmann oppose la création de l'écriture avestique dans le but de mettre par écrit les textes avestiques. C'est une écriture phonétique capable de représenter les moindres détails et les résultats d'un processus réflexif et systématique. Donc, des inconsistances et des incohérences sont exclues. La première copie de l'Avesta serait une sorte de transcription phonétique très soigneuse des textes avestiques comme ils s'étaient récités au début de l'époque sassanide dans l'Iran occidental, avec une écriture créée dans ce but. On la désigne comme l'archétype sassanide. Les inconsistances n'apparaissent que dans les six archétypes, les originaux directs de nos manuscrits copiés autour du Xe siècle. Durant les siècles entre la première copie et les six archétypes, la récitation post-sassanide aurait profondément influencé les six archétypes, de sorte que ceux-ci sont déjà des copies fautives. Entre les six archétypes et les manuscrits, les erreurs de transmission ont continué à se multiplier. Aux erreurs typiques de toutes les transmissions prolongées s'ajoutent les erreurs de copie par influence de la Vulgate. Donc, la tâche de l'éditeur ne peut être qu'éditer les textes dans la forme qu'ils présentaient à leur première mise par écrit à l'époque sassanide. Toute reconstruction d'un état antérieur échappe à l'investigation historique et celle d'un état postérieur serait déficiente par insuffisance. De cette position dérive une série de postulats méthodologiques. D'une part, puisque nos manuscrits dérivent tous des copies fautives, la critique textuelle ne peut pas être l'argument définitif. Ce rôle doit être joué par l'argumentation linguistique sur la base du matériel linguistique délivré par les manuscrits et avec l'assistance du comparatisme. Pour chaque forme éditée, on doit faire un postulat basé sur la critique textuelle, un postulat philologique et un autre linguistique. S'ils ne coïncident pas, l'autorité réside dans les deux dernières. De la sorte, Hoffmann a réussi à éliminer de façon incontestable beaucoup d'inconsistances de l'édition de Kellner. Son article sur l'accusatif plural de Théman A est paradigmatique. D'autre part, dans l'écriture avestique inventée ad hoc, chaque lettre de l'alphabet représente un son différencié et chaque son est représenté par une lettre différente. En analysant les distributions attestées dans les manuscrits, on peut déterminer la valeur originale de chaque lettre de l'alphabet avestique. C'est un des achèvements de Hoffmann les plus notables. Par conséquent, il croit qu'avec ces moyens, on peut reconstruire une première mise par écrit libre de fautes et cohérent. Il semble exclure que les copistes originaux commettent le même genre d'erreur dans la transcription que nous connaissons pour tous les copistes postérieurs et ne considèrent pas la possibilité que la récitation orale sassanide montre les mêmes oscillations que l'on trouve par la suite. Pour chaque mot, groupe de sons ou catégorie grammaticale, on va essayer de déterminer une forme archétypale. Quand on trouve des variantes irréductibles, l'explication est dialectale. Chaque variante appartient à des variantes dialectales différentes. Mais tout ce qui est antérieur à la mise par écrit du texte échappe à l'investigation. Cela ne l'a pas empêché pourtant de formuler l'hypothèse Arakossian pour expliquer quelques incohérences de l'archétype. Un exemple monumental de l'application de ces principes méthodologiques est le livre sur le vocalisme avestique de Michel Defant, dans lequel il essaie de trouver la forme archétypale de chaque voyelle dans chaque contexte phonétique. Les apports de Hoffmann ont renouvelé décisivement les études avestiques des 40 dernières années et surtout la pratique éditoriale. On l'a dit dans la première conférence, c'est sa méthode qui a déclenché la prolifération des éditions nouvelles des textes avestiques. Ses principaux accomplissements sont, pour être bref, le développement d'une méthode linguistique et philologique pour la sélection des variantes, la libération de la dépendance de Mihrabán et la détermination définitive de la valeur de presque toutes les lettres de l'alphabet avestique. Cela pourrait peut-être sembler hardi, mais je suis convaincu que quelques aspects de sa méthode devraient être soumis à une nouvelle réflexion. Les principaux aspects à réviser sont les suivants. 1. La séparation de l'histoire de l'Avesta rituel du Grand Avesta nous dépouille de l'argument historique pour une reconstruction des cérémonies telles qu'elles furent écrites dans l'archétype sassanide. On l'a déjà souvent répété lors de ce cycle de conférences, donc je n'insisterai pas sur ce point. Puisque nos manuscrits dérivent d'une tradition indépendante de l'archétype sassanide, il nous manque l'argument historique pour l'existence d'une première copie écrite sassanide de la liturgie longue et aussi de la liturgie brève, avec les caractéristiques que Hoffmann attribue à cet original. 2. L'argument philologique pour l'existence de ces archétypes pourrait n'être pas aussi définitif qu'on l'a assumé. Si, comme je suis convaincu, on peut se passer de ces archétypes, plusieurs conséquences en dérivent pour les postulats hoffmanniens. D'une part, on peut abandonner la distinction artificielle entre une récitation post-sassanide mais pré-hyparchétypale qui aurait influencé profondément les manuscrits, et d'autre part la Vulgate, qui n'aurait produit que des influences occasionnelles. D'autre part, si la confusion entre quelques lettres de l'alphabet ne s'est pas déjà produite dans les hyparchétypes, on doit vérifier dans les manuscrits la situation réelle des confusions entre les différentes lettres, établir une chronologie relative et déterminer les différents degrés de vraisemblance des distributions proposées. Et trois, les variantes et leur distribution temporelle et géographique n'ont pas été suffisamment analysées, sauf quelques observations générales. Sous la désignation Vulgate, on a caché une réalité trop importante pour être circonscrite à une désignation générale mal définie. La récitation a continué à changer après l'époque sassanide et, comme on va voir, des différences locales se sont produites. Les manuscrits sont restés perméables à la récitation et reflètent même les différences locales. Cet aspect n'a pas été considéré par Hoffmann, peut-être par l'accès déficient aux manuscrits iraniens. La conséquence directe est que l'on a attribué à la langue avestique récitée à l'époque sassanide des caractéristiques qui appartiennent, à vrai dire, à la prononciation moderne andienne et au plus rarement à l'iranienne. Permettez-moi de commenter brièvement ces critiques à la méthode de Hoffmann, sauf la première qui a été déjà abondamment discutée dans la première conférence. L'argument principal pour la linéarité de la transmission, c'est-à-dire que tout nom copie dérive d'une source commune, est la théorie des hyparchétypes dont Hoffmann a fourni l'argument philologique. On a en parlé lors de la première conférence. Au Yasna 12.3, la forme Ziaoyenim, que l'on trouve dans tous les manuscrits liturgiques et exégétiques, est une erreur de copie ayant son origine dans la transmission écrite. Puisqu'elle apparaît dans tous les manuscrits, ces fautes démontreraient que tous les manuscrits dérivent de la même source écrite. Dans ma contribution au colloque de Salamanca sur la transmission de l'Avesta, j'ai essayé de montrer que celle-ci n'est pas la seule explication possible. Comme les manuscrits sont influencés pour la récitation, ce dernier est aussi affecté et changé par l'influence des manuscrits. Quelques erreurs de la transmission écrite on finit par faire partie de la récitation traditionnelle. Par conséquent, dans la diffusion de ces variantes, ne sont pas seulement impliqués les manuscrits, mais aussi d'autres facteurs comme les écoles sacerdotales, les prêtres influents voyageant d'une communauté à l'autre, etc. Le catalyseur de ces généralisations est la praxis rituelle. C'est l'intuition de Spiegel quand il attribua l'uniformité des manuscrits à l'uniformité rituelle. L'évidence que la forme Ziaoyenim entrait dans la récitation traditionnelle est fournie par quelques manuscrits qui semblent avoir été copiés directement à partir de la récitation et non d'un manuscrit. Malgré sa dépendance de la tradition orale, il montre aussi cette forme. En effet, quelques manuscrits de la liturgie longue semblent avoir été copiés à partir du texte de la récitation liturgique que les prêtres connaissaient par cœur sans assistance d'un texte écrit. Les cas les plus frappants se trouvent, comme on pouvait s'y attendre, parmi les manuscrits de la cérémonie quotidienne, plus fréquentes et mieux connues. On peut comparer Yasna 9.1 dans un manuscrit de Mihraban, Dieu 2, comme représentant de la tradition liturgique et de la tradition libresse exégétique, et dans deux manuscrits liturgiques indiens qui se montrent spécialement dépendants de la tradition orale, B3 et 231, un manuscrit du Bandarka Oriental Institute. C'est le point 9 du handout. Les premières et probablement les Yasna indiennes les plus anciennes qui datent du 16e siècle. Le deuxième n'est pas daté. Cheretti, dans sa description, se limite à dire qu'il semble ancien. Comme on le voit, on peut difficilement imaginer que ces deux manuscrits, surtout le deuxième, sont copiés à partir d'originaux écrits qui dérivent du même archétype que Dieu 2 ou le Bidef d'Al-Sadeh iranien 4010. Malgré leur dépendance de l'oral, les manuscrits 231 à Siao Yanem et B3 Yao Nim. En outre, si comme on le voit, encore au XVIe siècle et vraisemblablement aussi encore plus tard, on était capable de copier en Inde un manuscrit sans employer un manuscrit original, on peut assumer que c'était aussi possible dans le siècle antérieur. L'idée que tous nos manuscrits dérivent d'une ou des copies me semble au moins peu probable. Quelques clans de manuscrits semblent dériver en fait d'un manuscrit. Mais la même chose n'est pas admissible pour toutes les classes de manuscrits, et encore moins que toutes les différentes classes de manuscrits dérivent d'un manuscrit ultime. Concernant l'usage des lettres avestiques, on a vu déjà dans la deuxième conférence que la confusion ne peut pas remonter aussi par archétype, puisque quelques distributions originales que l'on considérait abandonnées persistent encore dans les manuscrits liturgiques iraniens. Mais pas toutes. C'est évident que toutes les confusions des valeurs originales ne se sont pas produites en même temps. Ainsi, alors que les manuscrits liturgiques iraniens distinguent encore bien entre les chimes normales et les chimes de Hacha, ils utilisent les chimes hyperpalatales selon une distribution nouvelle. Maintenant que les manuscrits sont disponibles facilement et qu'on ne dépend plus des données aléatoires de Gelna, une analyse systématique des conventions orthographiques des différentes classes de manuscrits est indispensable. Seulement ainsi, on sera en mesure de connaître la distribution des lettres qu'on croyait confondues. On doit noter que même si la valeur originale de la plupart des lettres de l'alphabet semble hors de doute après l'analyse de Hoffman, les conditions distributionnelles de toutes ne sont pas claires pour autant. On a mentionné dans la deuxième conférence, par exemple, le problème de la M palatale. En outre, on ne peut pas oublier que toutes les conclusions sur les valeurs originales des lettres de Hoffman n'ont pas le même degré de vraisemblance. Quand la distribution est basée sur l'emploi actuel encore dans les manuscrits, dans certaines classes de manuscrits, les conclusions peuvent être considérées comme sûres. Par contre, quand elles sont basées exclusivement sur des réflexions paléographiques, elles sont plus incertaines et peuvent difficilement être retenues comme critères éditoriaux, et spécialement quand dans les manuscrits, la distribution est géographique. Je vous rappelle que l'axiome hoffmanien, selon lequel chaque lettre de l'alphabet avestique avait une valeur originale distincte dans l'archétype, n'est pas autant nécessaire qu'il l'est présenté. On a vu comment au moins une lettre avestique avait été créée en Inde autour du XVIIe siècle. Selon Hoffman, seulement le changement dans la récitation antérieure aussi par archétype a affecté profondément la transmission. Mit starken Einwirkungen, dit-il. Comme par exemple la confusion des trois S. Des trois chimes. Par contre, la Vulgate, c'est-à-dire l'influence de l'oral dans les manuscrits, n'est qu'un nombre d'éventualités, eine Unzahl von Zufälligkeiten, dans les procès d'instruction de maître à l'élève. Les problèmes qu'on reconnaît comme propres à celle-ci ne sont pas systématiques, les phénomènes qu'on reconnaît comme propres à celle-ci ne sont pas systématiques ni homogènes. Donc, ils sont facilement reconnaissables et ne peuvent pas être confondus avec les changements de la récitation antérieure au archétype et non plus avec ceux antérieurs à l'archétype sasanide. Pourtant, la situation n'est pas si facile. D'une part, l'existence des hyperarchétypes est chimérique, comme on l'a vu, donc ils peuvent difficilement devenir un critère discriminant entre deux phases de la transmission. D'autre part, l'évidence démontre qu'il y a eu deux changements systématiques de la récitation qui ont affecté les manuscrits même après la séparation de la transmission indienne et l'iranienne. L'exemple le plus facile et le plus parfaitement datable est la confusion dans les manuscrits iraniens de la Oulong avec la Ilong. Comme nous avons déjà vu, c'est une caractéristique des Dari de Yasekerman, ou dans quelques positions où l'ong devient ilong. Cette particularité dialectale a affecté la récitation yazdo-kermani et s'est introduite dans les manuscrits à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ce changement est systématique dans tous les manuscrits iraniens postérieurs à ces dates et montre l'adaptation des manuscrits à la récitation actuelle, même dans la tradition, même dans la soigneuse tradition liturgique iranienne. On notera qu'alors que Bahram Marzban distingue encore raisonnablement bien entre les deux sons dans les manuscrits 4010, il ne le distingue ni dans les manuscrits 4025, écrit 13 ans plus tard, ni dans 4030, copié encore un an plus tard, bien qu'il y ait vraisemblablement utilisé le même original. Alors, quand l'innovation s'est produite dans les manuscrits iraniens, les manuscrits indiens ont presque toujours rendu possible la détermination du caractère local du changement. Par contre, quand le changement est systématique dans les manuscrits indiens, la maigre représentation des manuscrits iraniens dans nos éditions de l'Avesta a eu comme conséquence que souvent ces changements ont été pris pour des évolutions propres de la langue avestique. Ainsi, dans la grammaire avestique de Hoffmann-Fossmann, on note comme accusatif singulier de Aewa hein, une longue liste de formes pour l'avestique récent, c'est le point 12 ans du handout. Oyum, oyum, oyem, oim, oim. Les deux dernières sont caractérisées comme formes alternatives tardives, spät avestische Nebenformen. Une forme similaire apparaît dans le cas de l'accusatif singulier de Haoya, gauche. L'évolution attendue serait oyum et hoyum avec métathèse, etc. Ni Hoffmann, ni Fossmann, ni Defant expliquent les conditions pour cette évolution, ni ce que veut dire l'étiquette avestique tardive. Pourtant, la possibilité de comparer la transmission indienne avec l'iranien d'une façon systématique nous a permis de reconnaître la distribution originale de ces formes et la datation approximative de cette évolution. C'est le point 12.2. La première conclusion évidente qui permet l'analyse de la distribution des formes dans les manuscrits est que les formes oin et hoim sont exclusives des manuscrits indiens, en incluant les manuscrits de Mihrabal. Les manuscrits iraniens présentent par contre oyum et hoyum. En outre, la distribution de l'évolution aywan en oin est aussi claire et régulière. Elle n'apparaît que dans des 10 syllabes en position finale. On peut comparer haroyum, vidoyum en face de oyim, hoim. L'enclitique cha empêche aussi la réduction de oyum en oin. On peut comparer hoim, mais hoyum cha. La seule exception que je connaisse est l'accusatif singulier de daeva. On atteindrait doyum en Iran et doim en Inde. Pourtant, la forme attestée est daeum, avec des variantes occasionnelles daem en Inde. Il semble que l'analogie paradigmatique de ces mots très fréquents a empêché l'évolution de les diptongues AE en OI. Par la suite, la réduction AEUM en AM n'apparaît que dans quelques manuscrits indiens. Ainsi, l'évolution AEWAN à OIM dans les 10 syllabes apparaît comme une loi phonétique régulière qui pourtant n'a affecté que la transmission indienne. Les formes oin et hoim ne sont pas des formes alternatives avestiques tardives, mais des récitations indiennes des formes plus antiques oyum et hoyum que l'on trouve encore dans les manuscrits iraniens. Cette évolution n'est pourtant pas occasionnelle, mais systématique dans des conditions bien définies. C'est une loi phonétique de la récitation indienne. On voit donc que la récitation a continué à avoir une évolution naturelle, même après l'apparition des manuscrits. Cette évolution trouve son reflet dans les manuscrits, de manière similaire à ce qui se passe avec l'orthographe et les changements textuels. Les manuscrits iraniens montrent aussi un état de langue ou une forme de récitation plus conservatrice que celle des manuscrits indiens. Ainsi, Defant a noté par exemple dans son livre sur le vocalisme avestique que la distribution ancienne entre ouz avec ou bref pour le nominatif singulier de thème en ou, mais ouz avec ou long pour l'accusatif pluriel est encore vivant dans les manuscrits iraniens, mais fut abandonnée dans la transmission indienne. Là, on trouve ouz avec ou long pour les deux formes. Aujourd'hui, L'analyse des évolutions linguistiques particulières de la transmission iranienne et indienne est une tâche pendante de la philologie à linguistique avestique. Bien que nous n'ayons que commencé cette recherche que très récemment, il semble qu'il y a un bon nombre de traits linguistiques que l'on attribue à l'archétype qui ne sont en fait que des caractéristiques particulières de la récitation indienne. Notre dépendance des manuscrits indiens et la croyance que tous les changements systématiques appartiennent à la récitation sassanide, comme elle fut mise par écrit à l'époque sassanide, nous sont incités à considérer des formes qui n'appartiennent qu'à la récitation indienne comme des formes de l'archétype. Donc, on doit analyser pour chaque phénomène séparément les données de la transmission manuscrit indienne et iranienne et vérifier si l'on peut constater des différences entre elles avant de prendre une décision éditoriale. Voyons un exemple, c'est le point 13 du handout. Pour des fins, la forme de l'accusatif singulier de thème en voix que l'on doit postuler pour l'archétype est donc édité et avec oulong, qui ne se différencierait pas de la désinence d'accusatif singulier de thème en ou, bref et long. La seule exception serait l'accusatif singulier de thème en indo-iranien swam. Cependant, si on analyse séparément les données de la transmission indienne et iranienne, on arrive à des conclusions clairement différentes. Les manuscrits iraniens distinguent parfaitement l'accusatif singulier des thèmes en « ou » et celui des thèmes en « wa ». Les premières finissent par « avec « oulong » qui, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, apparaît comme « im ». Les thèmes en « wa » montrent une distribution régulière. Si le wam ne suit qu'une consonne, la désinence est qui n'est avec ou bref, qui n'est jamais confondue avec im. Par exemple, pourum, thrisum, etc. Par contre, s'il suit deux consonnes, la désinence est avec oulong, qui se confond depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle avec im. Xtum, xtim, datrum, datrin, etc. Une distribution similaire semble être perceptible dans les manuscrits de Mihrabam. Par contre, les manuscrits indiens plus tardifs montrent la généralisation de la désinence avec oulong pour tous les thèmes en wa, de sorte que la distinction entre l'accusatif singulier des thèmes en ou et thèmes en wa disparaît dans les manuscrits indiens. On voit à nouveau comment les manuscrits indiens montrent une évolution indépendante des manuscrits iraniens et que la version indienne est censée erronément d'être celle de l'archétype. Nous trouvons un cas similaire avec la finale « oui » après consonne, mais dans ce cas, ce sont les manuscrits iraniens qui ont innové. C'est le point 14 du handout. Défend reconnaît la distinction suivante dans l'archétype. Après consonne, « lui » aurait subi un allongement qui aurait abouti à « oui » avec long « i ». Les exemples en finale absolue seraient « aredvi »,« taurvi » et « xtui ». Par contre, après « voyelle », les groupes restent oui, aoui, erenaoui, daoui. La distribution dans les manuscrits est un peu plus complexe. Celle postulée par défaut correspond à celle des manuscrits iraniens. Les exemples clairs sont taoui, xtui, hiskui, hiknui. Pourtant, dans les manuscrits indiens, la forme régulière est avec i bref. Il n'y a aucune exception. La même distribution apparaît aussi quand le « i » final est étymologiquement bref. Cela nous permet d'expliquer une forme fréquente de Kegelna a systématiquement mal édité. Il édite une expression fréquente du Bidevdat comme « aetahe paiti pesotanuje » ou « pasananam » ou « pasoid ». La forme pesotanuje est donc éditée comme un datif. Par contre, les manuscrits montrent presque toujours la même distribution. Les Iraniens avec i long, also pesotanui, et les Indiens avec i bref, pesotanui. La lecture pesotanuye est clairement minoritaire et influencée par les datifs tanuye. Cette forme est donc un locatif et non pas un datif. La traduction de cette expression est donc en retour un fouet dans celui dont le corps est passible d'une amende de x coupe de fouet. Alors, il semble que l'allongement de I long final après consonne plus 8 est un phénomène iranien qui n'affecte pas les manuscrits indiens. Il est postérieur à l'absorption de W dans un H antérieur, comme le montre le Banhu, qui apparaît régulièrement avec I dans les manuscrits iraniens. Pourtant, Devant attribue cet allongement à l'archétype. À vrai dire, le livre de Devant, si impressionnant qu'il est, demande une révision exhaustive dans laquelle serait faite systématiquement la distinction entre les évolutions propres de la récitation iranienne et celle de l'indienne. La comparaison de deux traditions met aussi en lumière d'autres différences qui ne sont pas assez régulières pour être considérées comme des lois phonétiques de la récitation, néanmoins elles sont systématiques pour certains mots. Les divergences de ce type entre la transmission iranienne et indienne sont très fréquentes et très instructives aussi pour comprendre des éventuels phénomènes similaires antérieurs à la mise par écrit. Dans mon article Building Trees, j'ai comparé un paragraphe de Vispera choisi aléatoirement dans les transmissions indiennes et iraniennes, c'est le point 15 du handout. Il y a trois divergences significatives entre les deux traditions qui sont marquées en gras dans le handout. Deux, Dahyuma et Vastrobureta, n'affectent pas seulement ces passages, mais sont régulières pour toutes les attestations des mots concernés. Je ne vais commenter aujourd'hui que la première. Dans la transmission indienne, Dahyuma, qui appartient au pays, montre un long dans les manuscrits indiens, alors que les manuscrits iraniens ont la voyelle brève. Gelna a adopté une distribution très particulière pour l'édition de ces mots. Il est dit avec voyelle longue dans toutes les attestations de la liturgie longue et avec brève ailleurs. Bartholomé, dans son dictionnaire, consigne tous les deux. La distribution dans les manuscrits de la liturgie longue est pourtant bien claire et régulière dans toutes les attestations. Les manuscrits iraniens liturgiques et mihrabans montrent toujours la voyelle brève. Les Indiens, par contre, presque toujours la voyelle longue. Les manuscrits combinés de Yasna ont soit l'une, soit l'autre. L'allongement de la voyelle est donc un phénomène clairement indien. Là, il est régulier. La forme est attestée 14 fois et seulement dans Yasna 17-18, on trouve un bon nombre de manuscrits indiens qui montrent la voyelle brève. Pourtant, dans ces cas, on ne peut pas parler d'un loi phonétique. Les mots d'Ahyu n'attestent presque jamais l'allongement. La seule exception est les manuscrits 4400 qui présentent la particularité de la voyelle longue pour ces mots. Pour le reste, l'allongement n'apparaît qu'occasionnellement dans Usdahyumnancha, Uyasna 26 et Vispera 16-2. Là, quelques manuscrits liturgiques indiens, MMPT4, montrent la voyelle allongée, bien que la plupart attestent la voyelle brève attendue. Pourtant, Gelna l'édite avec voyelle longue. Apparemment, il y a une tendance dans la récitation indienne à l'allongement des A dans ces contextes. Mais seulement dans Dahyuma, la forme avec allongement est devenue canonique en Inde. Gelna a édité à nouveau selon un phénomène purement indien. Maintenant, je vous présente un exemple iranien pour montrer que ces changements n'affectent pas seulement la transmission indienne. Le superlatif attendu de l'adjectif tahma, courageux, est tanchista, qui est la seule forme attestée partout dans les manuscrits indiens. Pourtant, les manuscrits iraniens, presque sans exception, montrent pour les trois attestations dans la liturgie longue toujours tangista. C'est le point 17 des handouts. Sans doute, la forme a été influencée par l'évolution du groupe enche à enje en moyen perse. Par exemple, pancha, 5, aboutit en moyen perse à panj. Cette sorte d'influence est certes banale, on pourrait dire. Pourtant, elle n'est pas si banale parce qu'elle a affecté ces mots dans toutes ses attestations et seulement dans ces mots. En fait, d'une part, toutes les attestations montrent cette évolution dans ces mots. D'autre part, d'autres mots avec le même groupe, comme le numéral pancha ou le dérivé de merencha, on ne trouve jamais des variantes avec le groupe enje. On peut donc conclure que la tendance à cette récitation de un tse comme un jeu existait en Iran sous l'influence du Moyen Perse, mais qu'elle fut réprimée. Les formes de tanjista ont échappé à la répression de cette tendance, et la forme tanjista est devenue canonique en Iran. La raison est peut-être que dans ce cas, ni les positifs dharma ni les comparatifs tanshya présentent le tse, de sorte que la confusion était plus facile. Il est donc légitime de se demander si d'autres irrégularités de l'avestique, souvent expliquées comme des dialectalismes de la langue avestique, ne pourraient pas aussi s'expliquer de cette façon et donc comme des phénomènes de la transmission postérieure à l'époque sassanide. Peut-être quelques phénomènes attribués à l'arocossien par Hoffmann, comme l'apparition systématique de la sifflante palatale ou post-alvéolaire « je » au lieu de l'attendu africain « je », c'est le point 17 du handout, 18, pardon. C'est le point 18. Hein. En moyen perse, l'afrique intervocalique devient la sifflante sonore alvéolaire et en part la sifflante post-alvéolaire. Peut-être que ces formes sont les restes de l'influence de la récitation moyen perse ou part du récitatif, similaire à Tanjista dans les manuscrits iraniens, mais parvenu avant la division de la communauté. Une explication similaire serait aussi possible, par exemple, pour avestique binathaya, détruire. Les rapports étymologiques avec le vieux perse binathaya semblent hors de doute, mais on attend en avestique binasaya et non binathaya. Cette fois, on a substitué la forme originale avestique par la forme persane correspondante qui est très proche. Il semble que dans l'évolution de la récitation de l'avestique à toutes les époques, il y a eu des changements qui ont été acceptés comme canoniques, comme par exemple l'évolution des RT postoniques en che, par la médiation de Hra à l'époque sassanide, l'évolution de Oulong à Ilong en Iran, le passage de Oyung à Oyin dans des conditions déterminées en Inde, etc. Mais il y a eu aussi d'autres évolutions qui ont été réprimées. C'est le cas de Enche en Enje en Iran. Pourtant, même si elles ont été réprimées, elles ont laissé parfois des traits occasionnels dans des mots dont la forme altérée est devenue canonique. Comme dans le cas de la transformation du rituel, dans l'évolution de la récitation, on bouge toujours dans le difficile équilibre entre le changement et la continuité. La continuité étant désirée et cherchée, quelques changements ont été réprimés. Mais d'autres sont devenus canoniques et se sont installés dans la praxis rituelle et dans les manuscrits. Quelques changements n'ont influencé qu'une partie de la transmission, l'indienne ou l'iranienne, alors que d'autres atteignent la totalité de la transmission parce qu'ils sont antérieurs à la séparation des deux traditions. Dans les cas des dernières, il restait toujours hypothétique de savoir s'ils appartiennent à la récitation sassanide ou sont postérieurs. Hoffmann a introduit dans l'histoire de la transmission une série de jalons décisifs, l'archétype sassanide, les hyperarchétypes, qui nous fournissent des étapes claires dans l'histoire des textes avestiques. Ainsi, la tâche de l'éditeur se laisse définir avec clarté. Malheureusement, il semble que la plupart de ces jalons sont illusoires. L'archétype et les hyperarchétypes se dissipent et l'histoire de la transmission avestique perd ainsi ses contours clairs. Par conséquent, la tâche de l'éditeur doit aussi être redéfinie. On se trouve devant une situation qui nous rappelle fortement à celle que j'ai désignée la semaine dernière pour les récitatifs et les rituels. La liturgie post-sassanide est bien semblable à la sassanide, mais on ne peut pas admettre simplement qu'elle est identique. On pourrait faire une affirmation similaire sur la récitation du récitatif. On vient de voir que la récitation a continué à changer même après la séparation des communautés indiennes et iraniennes. Cependant, il est aussi vrai que même sans les recours à l'archétype sassanide, il y a des arguments pour supposer que la récitation que nous connaissons n'est pas très différente de la récitation sassanide, mais malgré quelques modernisations. Bien que la plupart de nos manuscrits proviennent de la région Yazdo-Kermanie, quelques manuscrits ont leur origine dans d'autres régions, comme la région du Fars, les manuscrits combinés de Yasna, ou le Sistan, les Yasna Pehlevi indiennes. Cependant, tous les manuscrits reflètent la récitation sud-occidentale de base avec des petites différences dans les détails. Donc, il semble qu'il y a eu un mouvement homogénéisateur qui a généralisé une variante dialectale de la récitation avestique comme variante universelle en Iran, depuis les Fars jusqu'à Khorasan et Sistan, au moins. Dans ces mouvements, il est possible que les manuscrits aient joué un rôle important, mais sûrement pas exclusif. Les écoles sacerdotales, les voies des prêtres des régions centrales ou périphériques, les conciles comme ceux que dimensionne les Denkar, etc., auraient aussi été employés pour les mêmes buts. On peut aussi soupçonner que la généralisation de des variantes standards de la liturgie qu'on connaît fait partie du même mouvement. La nécessité d'une structure ecclésiale pour un tel processus nous fait penser à l'époque sassanide plutôt qu'à une période après la conquête musulmane, mais nous n'avons aucune preuve définitive. En outre, le fait que les textes qui dérivent d'une manière plus directe du Grand Avesta, comme les Arvadestan et les Nerangestan, témoignent d'une récitation qui est essentiellement la même que celle des manuscrits rituels, indique aussi l'universalisation de la récitation sud-occidentale à l'époque sassanide ou peu après. Les citations de la liturgie longue dans les Nerangestan sont, comme on vient de voir la semaine dernière, identiques aux versions des manuscrits rituels, ce qui n'exclut pas quelques variations textuelles. Les citations avestiques, incluses dans le commentaire de la traduction par Levi de Videvdat et Yasna, ne permettent pas non plus d'entrevoir des traits distinctifs clairs par rapport au texte liturgique. Sauf des détails, la récitation semble être essentiellement la même. Pourtant, étant donné que la linéarité entre les manuscrits que nous avons et un supposé codex sassanide ne peut pas être garantie, on doit admettre que le texte auquel nous avons accès à travers des manuscrits n'est pas le texte sassanide, mais une version du même transmise dans un milieu conservateur qui s'efforce de préserver soigneusement la récitation traditionnelle, mais qui se montre incapable d'empêcher tout changement. Dans ces circonstances, je considère plus prudent d'éditer la liturgie longue dans la forme de récitation qu'elle présente dans les manuscrits qui semblent le plus conservateurs. Les manuscrits liturgiques iraniens les plus anciens, que de reconstruire la récitation sassanide, surtout si on considère aussi que les cérémonies que nous éditons ne sont pas non plus identiques aux cérémonies sassanides. Bien entendu, je n'exclus pas la possibilité de corriger la version iranienne pour des raisons diverses. Quelques modernisations évidentes de la transmission iranienne, comme l'usage des biais de la Chine hyperpalatale ou les confusions occasionnelles de Ilong ou Long déjà dans les manuscrits les plus anciens, peuvent évidemment être corrigées. Dans les cas où la tradition indienne a préservé une lecture correcte et non l'iranienne, on pourrait également introduire dans les textes édités la version indienne. Pourtant, toute déviation de la transmission iranienne devrait être indiquée dans les textes de sorte que le lecteur soit avisé d'une altération du texte comme il apparaît dans les manuscrits iraniens. L'objectif est d'éditer un récitatif historique d'une série de cérémonies aussi historiques. Si elle y a en conséquence linguistique, elles seront au moins historiques et non créées par des décisions éditoriales. La place dans l'histoire des cérémonies éditées et de la forme de sa récitation est l'Iran du Fars au Sistan entre les siècles 13 à 17. Grâce aux témoins des manuscrits combinés de Yasna, nous savons que par rapport aux cérémonies du 11e siècle, il n'y a pas de divergence significative. En outre, nous avons de bonnes raisons pour affirmer que ni la récitation ni la liturgie n'étaient pas très différentes de celles des Sassanides. En fait, la liturgie, malgré des différences dans la récitation, a été célébrée dans la même forme ou dans une forme très similaire dans une époque bien antérieure à la sassanide. L'objet de notre édition est donc les cérémonies pré-sassanides récitées dans une forme légèrement évoluée d'une récitation sud-occidentale généralisée pour tout l'Iran, vraisemblablement à l'époque sassanide. La linguistique et la philologie nous permettent parfois de reconstruire une version plus proche à la version sassanide et aussi à la pré-sassanide. L'édition devrait inclure ces variantes dans la parade et les notes autant que les évolutions et changements ultérieurs dans la version indienne de la même cérémonie. L'histoire des textes avestiques ne se laisse plus diviser en sept étapes claires et bien définies. L'archétype sassanide est maintenant substitué par un ensemble rituel que nous appelons la liturgie longue et qui fut universalisé partout en Iran, vraisemblablement à l'époque sassanide. dans ces processus, les manuscrits peuvent avoir joué un rôle important, mais sans doute pas exclusif. D'autres éléments homogénéisateurs furent les écoles sacerdotales, les voyages des prêtres, les conciles, etc. La cause de l'homogénéité des manuscrits n'est pas un manuscrit originaire, mais la liturgie même, comme l'avait déjà supposé Spiegel. L'universalisation n'a pourtant pas détenu les cours de l'histoire. Malgré les pressions conservatrices, quelques changements ont continué à s'opérer dans la liturgie et dans la récitation. Dans ce contexte, l'auditeur ne peut que reproduire les cérémonies dans la forme qu'elles adoptent dans un moment historique choisi. Plus il s'éloigne des témoins des manuscrits, plus grand sera le degré d'incertitude de la reconstruction. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.